1, 2, 3, 4.
Donc nous sommes le 22 octobre 2012. Je vais vous demander de vous présenter.
Mais je me présente
Qui vous êtes?
Qui je suis? Bonjour, je suis Christian Continent. J'habite les Nauxbois. Je suis né le 28 juin 1947 à Troyes. Je suis marié, j'ai deux enfants. Une fille qui s'appelle Sophie, qui est orthophoniste, et un fils qui s'appelle Stéphane, qui est directeur d'agence. Je suis agriculteur.
Que faisaient vos parents?
Mes parents étaient agriculteurs, ainsi que mes grands-parents maternels et paternels. Donc mes grands-parents paternels à Lesnaux-Bois, mes grands-parents maternels à Saint-Léger, près Troyes. Mon arrière-grand-père était menuisier ébéniste. Ah, puis les autres, je sais pas.
Et vous avez connu vos grands-parents?
Oui. Enfin, mon grand-père maternel, il est décédé, j'avais 4 ans, je crois, donc je n'ai pas de souvenir de lui. Mais sinon, oui, mon grand-père est mort en 75. Oui, enfin bon, je sais pas.
Ils étaient où? Les exploitations étaient où?
Vous voyez, c'était mes grands-parents paternels, c'était à Lesnaux-Bois, et mes grands-parents maternels à Saint-Léger, près de Troyes. Et donc, moi, j'ai exercé mon métier d'agriculteur sur la commune de Lesnaux-Bois.
Et vos parents, qui étaient agriculteurs?
Oui.
Où exactement, sur Lesnaux-Bois?
À côté de chez moi, là. Voilà, juste à côté. Au 16, non, c'est au 14 Grande Rue. Et puis moi, j'ai repris la succession, enfin, en gardant les bâtiments.
Et qu'est-ce qu'ils avaient comme exploitation?
Quand je suis rentré du service militaire, j'avais voulu connaître un petit peu autre chose, donc je suis parti travailler en ville. Et mon père exploitait à l'époque une exploitation de 66 hectares. Donc je suis revenu travailler avec lui et on a amené l'exploitation à environ 140 hectares.
Et quand vous étiez enfant, vous savez à peu près ce qu'il y avait?
Oui, enfin c'était une exploitation polyculture-élevage. Mais moi, une des conditions de mon retour sur l'exploitation, c'était de l'arrêt de l'élevage.
Qu'est-ce qu'il y avait comme élevage?
Des vaches laitières, et puis à une époque, il a fait un peu de porc. Et puis sinon, après, c'était la basse-cour traditionnelle, quoi.
Et comme polyculture, il y avait quoi?
Des céréales plus quelques parcelles de luzerne ou de betteraves fourragères pour nourrir les animaux. Donc après, on a transformé ces parcelles-là en culture céréalière pure.
Il y avait un peu de vigne?
Oui, bon, mais une petite vigne pour satisfaire les besoins de la famille. C'est tout, hein, c'était pas une vigne en appellation. Alors que là, apparemment, on se dirige vers une appellation. Hein, puisque Lesnaux-Bois fait partie des communes qui devraient être en appellation d'ici quelques années.
Et elle était où cette parcelle?
Sur les coteaux de Lesnaux-Bois, au lieu dit, enfin maintenant ça s'appelle les Vignes Rouges, ça a été renommé suite au remembrement, avant ça s'appelait les Grandes Vignes.
Donc un endroit dédié quand même aux vignes.
Ah oui, puisque Lesnaux-Bois, à la fin un peu avant le phylloxéra, quoi, il y avait jusqu'à 125 hectares de vignes. Et puis donc le phylloxéra, dans les années 1890, par là, je crois, ça a tout arrêté, quoi, puisque après il fallait arracher et puis replanter des vignes avec porte-greffe américain.
Vous savez si vos grands-parents avaient un peu de vigne ou un peu plus, ou c'était juste la consommation courante?
Oh, je n'ai pas connaissance que mes parents et mes grands-parents aient commercialisé du vin. À Lesnaux-Bois, enfin, Lesnaux-Bois avait une bonne réputation au niveau du vin, et il se vendait. Mais je pense que mes parents et mes grands-parents étaient plus tournés vers les céréales, quoi, plutôt que la vigne, quoi.
Et vous, alors, quand vous étiez enfant, vous étiez à l'école?
Eh ben, j'ai fait l'école primaire de Lesnaux-Bois. Après, je suis allé au collège de Bouilly, où on se rendait à l'époque en vélo et non plus pas en car de ramassage. Ensuite, je suis allé au lycée de garçons, dans une école d'agriculture d'hiver, que ça s'appelait. Ça n'existe plus d'ailleurs. C'était une école qui faisait un petit peu l'alternance qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire que c'était quelques mois, les mois d'hiver, puisqu'il n'y avait pas de travaux dans les champs, on allait à l'école. Et puis au printemps, je crois que ça devait être à partir du 15 mars, je crois, on réintégrait l'exploitation familiale pour les travaux, quoi. Et ça durait 2 ans, oui, c'était 2 ans de suite. Hein.
C'était où?
Au lycée de garçons à Troyes, où il y a l'espace Argence maintenant. Oui, il y avait deux classes de réservées pour des gens comme nous, quoi.
Et après le lycée?
Bon, après le lycée, je suis revenu travailler sur l'exploitation. Ouais, et puis en 1966, je suis parti faire mon service militaire en Allemagne pendant 16 mois. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis rentré avec l'envie de connaître autre chose que le milieu agricole. Donc, je suis parti travailler dans une boîte qui faisait du commerce de matériaux. En tant qu'acheteur, à l'époque, on ne nous demandait pas des diplômes et des diplômes, il suffisait de travailler. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi.
C'était quelle boîte?
C'était le CGB. Et puis, donc au bout d'un an et demi, j'ai préféré revenir dans l'exploitation familiale parce que quand on est né dans une ferme, on aime une certaine forme de liberté qu'on n'a pas quand on est salarié, quoi. Voilà, puis après,
Et là, vous avez négocié.
j'ai négocié avec mon père parce que je ne me sentais pas du tout l'âme d'un éleveur. L'élevage, il faut aimer ça, hein, sinon on va tout droit à l'échec si on n'aime pas. Moi, j'aimais pas, donc. On a changé un peu le type d'exploitation, on a refait de la céréale et puis après j'ai commencé à faire de la betterave sucrière parce qu'à l'époque on pouvait comment dire se lancer là-dedans sans trop de risques, quoi. Et puis voilà, bon, après mes parents à l'âge de la retraite m'ont laissé seul. Et puis, j'ai continué l'exploitation avec mon épouse. Mais disons que quand je me suis installé, c'était en 71. J'ai vécu et travaillé sur l'exploitation et je pouvais vivre des revenus de l'exploitation. J'ai même pu construire ma maison. Alors, quand la question s'est posée pour la succession avec mon fils, on avait pourtant doublé la surface, mais ça ne dégageait plus suffisamment de revenus pour faire vivre deux ménages, quoi. Voilà pourquoi j'ai pas insisté pour que mes enfants restent là et qu'ils se dirigent dans d'autres voies. Bah, sinon, dans l'agriculture, j'ai pris des responsabilités syndicales. J'ai été vice-président du CDJA, c'est-à-dire du Centre des jeunes agriculteurs. J'ai travaillé un peu à l'échelon régional. Bah, après, comme souvent, j'ai intégré la Fédération départementale des exploitants agricoles. C'est un peu le tracé logique. Et puis après, c'était les responsabilités communales. Je suis rentré en conseil municipal en 1977, oui, où j'ai été nommé adjoint. Et en 83, j'étais élu maire, où j'ai fait 3 mandats jusqu'en 2001. Et là, un de mes chevaux de bataille était justement l'appellation Champagne pour le vignoble de Lesnaux-Bois, puisque j'estimais que ça pouvait apporter une nette amélioration pour les revenus de gens qui travaillaient sur Lesnaux-Bois. Pardon?
En tant que maire.
Oui, en tant que maire, oui. Oui, j'ai fait des tas de démarches. C'était dû à, disons, à la jeunesse. J'avais la foi, là, mais bon, je me suis aperçu qu'il fallait passer par des voies politiques et qui se fermaient forcément, quoi. Donc là, maintenant, bon, apparemment, la profession agricole, enfin viticole, admettrait qu'il y a une extension. Donc,
Alors, si on reprend les choses, quand vous êtes la vigne sur les Nova, vous en avez entendu parler quand vous étiez jeune agriculteur ou pas? On en parlait?
pour l'appellation, non, on n'en parlait pas. Je crois que moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est à la commune, quand j'étais adjoint, je crois qu'il y a un conseiller général qui était venu en parler un petit peu
Parler de quoi?
de la possibilité de se préparer à l'appellation Champagne. Mais bon, est-ce que c'était un argument électoral ou pas, je ne sais pas.
C'était quand?
Bon, je ne sais pas, dans les années 77, 78, par là. Ouais. Mais bon, moi j'avais fait des. Suite à ça, j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai fait des recherches et j'avais trouvé des éléments. J'avais retrouvé par exemple une lettre de 1926, je crois, qui prouvait que des Marnais étaient venus acheter du moût de raisin à Lesnaux-Bois pour le travailler, pour faire du champagne, quoi. Mais on retrouve la réputation des vins de Lesnaux-Bois dans certains livres, je crois. Et il me semble que Monsieur Baroin Père avait écrit un livre dans lequel on parlait du très bon vin de Lesnaux-Bois.
Et vous parliez de motivation tout à l'heure, qu'est-ce qui vous motivait?
Ce qui me motivait justement, c'est un petit peu le fait d'avoir eu des responsabilités agricoles, d'avoir donc côtoyé des gens du milieu agricole et viticole. On voyait bien que c'était plus facile, entre guillemets, pour les gens qui étaient dans la viticulture que dans les gens qui étaient dans l'agriculture. Ici, on assistait au départ de tous les jeunes de la commune pour aller travailler sur Troyes parce que les exploitations agricoles n'avaient pas suffisamment de surface pour leur permettre de tirer un revenu correct. Alors que s'il y avait eu la viticulture, bon, à l'époque, on parlait d'un hectare de vigne pour 25 hectares de terre. Je crois que c'était à peu près le ratio. Bon, maintenant, c'est plus du tout la même chose, mais à l'époque, je pense que ça aurait permis à des jeunes de rester sur les nobles. Bon, ouais, bon, ça c'est pour.
Et ça s'est bien vendu au niveau de la commune, cet argument?
Ah oui, je pense que des gens nous suivaient parce que, par exemple, j'avais pris une petite habitude, c'était d'aller présenter mes vœux au député en lui emmenant une bouteille de vin pétillant de Lénaubois. Comme lui était originaire d'Hérissé, puisque c'était Monsieur Gallet. Je voulais lui montrer qu'à Lénaubois, on pouvait aussi faire des produits comme ça. Bon, il a été très poli, il a toujours dit que c'était bien et bon, mais bon, ça s'est toujours arrêté là, quoi. Ouais, sinon, bah, pour le vignoble, bon, alors moi personnellement, bah, j'ai arraché une partie de la vigne de mes parents pour planter du chardonnay. Et ben, puisqu'on ne veut pas me donner l'appellation, je fais mon champagne moi-même. Voilà. Que je consomme avec les membres de ma famille uniquement.
Et que vous appelez.
Ben, nous, on appelle ça champagne quand on est entre nous, mais sinon, à l'extérieur, il faut appeler ça vin pétillant, ou je ne sais pas, puisque le mot champagne est réservé.
Et donc, vous avez une surface de combien?
En vigne? Oh, ben, c'est tout petit, hein. Enfin, la vigne fait 20 tares environ, moi j'en ai gardé 6 pour moi, j'ai loué les 14 autres tares à un ami qui fait la même chose. Mais bon après, classable en appellation, bah, j'aurais deux ou trois hectares, quoi. Alors à ce sujet-là, on assiste en ce moment à des gens de la Marne qui viennent acheter des parcelles de terre parce que enfin, je pense qu'ils veulent l'anticiper, ils sentent que l'appellation va arriver, donc ils achètent déjà des hectares de terre. Bon, ce qui est dommage, c'est que bon, bah, les gens ont leur raison pour vendre. Peut-être qu'ils ont besoin d'argent, peut-être qu'ils n'ont pas de successeur, je ne sais pas, mais bon, ces hectares-là partent donc à des grandes maisons de champagne. Elles feront jamais le bonheur de gens du cru, quoi.
Vous avez reçu la visite?
Ah oui, même j'ai reçu une première visite, une deuxième, parce que je pense que la personne avait conclu qu'en insistant, je changerais d'avis, mais non, je ne l'ai pas fait. On m'a même emmené visiter les installations de cette maison-là. Mais non, moi je crois que c'est quelque chose qui doit rester aux mains des gens de Lénaubois et non pas, parce que ce qu'on risque de voir, c'est s'il y a une grande partie qui est vendue comme ça, ben, on va voir arriver des vignerons avec le semis remorque, les outils sur le semis. Ben, quand ce sera la vendange, on mettra les caisses sur le camion, on les emmènera. Et finalement, qu'est-ce qui restera à Lénaubois? Rien, quoi. Alors, bon, il n'est pas interdit de rêver, je pense que ça va. Peut-être que ça viendra, mais bon.
Et ils ont bien un argumentaire lors des visites, non?
Ah oui, mais bon, l'argumentaire, c'est le chèque, hein. En ce moment, ben, il propose d'acheter des hectares de terre jusqu'à 200 000 euros l'hectare. Ben, il y a des gens qui se laissent tenter, hein. Mais bon, il faut peut-être penser plus à l'avenir qu'au présent, je ne sais pas. Enfin, bon, moi c'est le cas. Je préfère garder ça pour mes enfants, ou mes petits-enfants, peut-être qu'il y a quelqu'un qui voudra travailler la vigne. Et peut-être que de là-haut, je verrai un jour l'étiquette continent sur la bouteille. C'est fort.
Et vous pensez que si l'appellation avait été venue dans les années 70-80, ça se serait passé différemment?
Ah bah oui, je pense que le village serait plus du tout celui qu'il est, hein, parce que bah, dans les années 70, il y a beaucoup de gens qui sont partis, par exemple, aller travailler chez Petit Jean, qui n'avaient pas forcément, je veux dire, c'est pas les études qui les ont fait partir, c'est le manque de travail sur place. Mais ces gens-là, avec de la vigne avec laquelle ils auraient vendu un produit qui leur permettrait de vivre, ils seraient restés sur place. Parce que c'était souvent des fils d'agriculteurs.
Et aujourd'hui, alors, c'est quoi? C'est venu trop tard?
C'est.
Ça vient trop tard? C'est pas
Bah,
le bon timing?
oui, puis. Le, disons, les jeunes ici du milieu agricole bah, sont partis. Comment dire, la population du village a augmenté un petit peu, mais pas avec des gens issus du milieu agricole, mais des gens souvent de Troyes ou de sa périphérie, parce qu'à Lénobourg, on n'est pas loin de Troyes. Bon, plus disons dans les nouveaux habitants, il y avait beaucoup d'un moment il y avait beaucoup d'enseignants, de gens qui travaillaient à l'hôpital. Bon, c'est sûr, c'est proche de Hénouba. Mais je veux dire, c'est pas ces gens-là qui ont la propriété du terrain qui peut être en vigne. Et puis ceux qui sont partis, leurs enfants, bah, c'est pareil, ils sont partis faire autre chose. Et puis, alors bon, mais il faut quand même garder espoir, et puis peut-être que ça fera revenir bah, des petits-enfants de propriétaires, parce que même les enfants, ça va commencer à être tard. Parce qu'on n'envisage pas l'appellation avant 2 ou 3 ans, plus après il faut avoir les droits de plantation. Si la loi qui était votée, là, je pense qu'elle va être comment revue, puisque il était question de libéraliser les droits de plantation, et je crois que là maintenant ils sont en train de faire marche arrière. Mais bon, il faudra aussi quand même qu'il y ait une volonté des gens du cru de se battre un petit peu, avoir l'ambition de faire quelque chose, quoi. Et non pas toujours regarder les autres venus d'ailleurs finir un petit peu piller les richesses de Hénovo.
Et où est-ce que vous avez appris à champenoiser?
J'avais un copain qui en faisait un petit peu, et puis
Qui?
Marcel Devin, il s'appelait. Il avait un nom prédestiné. Et donc après, je me suis approché de la station œnotechnique de Bar-sur-Seine, avec leurs œnologues. De la maison Soufflet, enfin la partie vigne de chez Soufflet avec leur conseiller technique pour la viticulture. Puis bah, avec tout ça, puis petit à petit, j'ai appris. De temps en temps, j'ai eu un peu d'échec, bien sûr, quand on apprend, hein, on peut pas toujours. Mais bon, bah, apparemment, je sors un bon produit maintenant, puisque mes amis l'apprécient et parfois en redemandent. Donc, c'est que ça doit aller. Comme quoi, bon, c'est pas hyper compliqué de faire ça. Et puis, il y a suffisamment maintenant de services qui gravitent autour de ça pour arriver à faire quelque chose de bien.
Comment ça se passe alors, au niveau technique, au niveau matériel, tout ce niveau-là, au niveau humain?
Ah ben bon, déjà que la petite surface que j'ai, bon, c'est pas très très prenant, mais bon, ben j'ai mon père m'a appris un peu à tailler. J'ai recreusé une cave sous ma terrasse. J'ai acheté des cuves. Et puis voilà, mes amis viennent vendanger. C'est l'occasion de passer une très bonne journée, puisqu'on est plus longtemps à table que dans la vigne. Et puis voilà, puis j'aime bien travailler le vin pour en sortir. Pour en sortir ce que le produit que je vous disais là.
Parce que c'est un loisir, finalement.
Oui, plus. Oui, enfin bon, là je suis retraité, donc quand j'étais encore puisque j'ai planté ma vigne en 99, j'étais retraité en 2007. Bon, il y a des fois, le travail de la vigne, il était un petit peu repoussé, parce qu'il y avait urgence dans les champs, donc. J'avais donné priorité quand même à l'exploitation. Et maintenant que je suis retraité, oui, ça m'occupe, ça me permet d'être un peu d'être dehors. Enfin,
Parce que ça représente quand même des investissements.
Oui, oh bah, des investissements, bon, en matériel, pas beaucoup, puisque j'ai un sécateur, j'ai quelques cuves. Et puis un pressoir, quoi. Mais un pressoir que j'ai acheté cette année, là, je l'ai changé puisqu'on l'avait entre plusieurs. Et dans le groupe, il y a un salarié, donc il peut vendanger que le samedi. Et moi, j'ai mon fils qui doit avoir le virus un petit peu du vin quand même, puisque maintenant il veut venir vendanger, comme il est loin, et ça peut se faire qu'un samedi. Donc j'ai pris la décision d'acheter un pressoir. J'ai acheté un pressoir d'occasion. Et puis voilà, comme ça je suis autonome, je vendange quand je veux. J'essaie de cultiver un petit peu l'envie que mon fils a à faire du vin, puisque maintenant, quand on fait le tirage, c'est-à-dire quand on fait la prise de mousse du vin, je fais ça à une époque où il est en congé pour qu'il puisse venir le faire. Et cette année, même mon petit-fils venait porter des bouteilles. Donc, il est déjà dans l'ambiance. Alors après, bon, on verra.
Vous avez un bon rendement.
Disons, le but, c'est pas de faire du rendement, le but, c'est de faire un bon produit. Alors, bon, cette année, par exemple, c'était pas. J'ai fait moitié de l'année dernière, mais ça me préoccupe pas, c'est pas pour en vivre, donc je préfère sortir un bon produit que de la quantité. Comme je vends pas, ça m'intéresse pas le prix.
Et vous vous sentez vigneron?
Je me découvre vigneron. Je me sentais pas vigneron, puisque enfin c'est pas la même chose. Quand j'étais exploitant agricole avec mon père n'aimait pas la vigne, mais il la faisait parce qu'il fallait la faire, mais sans envie. Et puis moi, je dois dire qu'au début, c'était un peu la même chose. Et puis c'est quand j'ai découvert que si j'en arrachais un bout, que je pouvais faire du champagne, faut le dire, ça nous permet de boire du champagne quand on veut, autant qu'on veut, sans dire qu'on se saoule avec. C'est pas ça, hein. Mais disons qu'on peut faire la fête sans que ça nous coûte une fortune. Et puis ça fait plaisir aux gens qui m'entourent, donc c'est bien, oui, je continue, j'en fais. Oui. Alors, tant que le physique suivra, je crois que j'en ferai. Oui. Bah...
Il y avait des zones déjà ou pas, où il n'y avait rien du tout sur les Nobois d'appellation?
Mais d'appellation, il n'y en a pas. Comment dire, il y a eu un classement des communes viticoles en 1927. Enfin, on dit c'est la loi de 27. D'après ce que je peux en savoir, les gens de l'Hainaut-Bois, les élus de l'époque, n'ont pas fait la démarche ou les démarches qu'il aurait fallu faire pour être dans les communes en appellation. Alors après, il y a eu des gens qui ont essayé, sûrement en voyant les résultats, enfin ce que ça donnait chez ceux qui avaient accepté l'appellation. Je me rappelle avoir vu une analyse de terre comparant l'Hainaut-Bois à Ailly en Champagne. Analyse de terre avec commentaires qui avaient été déposés à l'Assemblée nationale. Je ne sais plus par quel député. Mais bon, ça s'est soldé par un échec. Donc après, je pense que ça a dû refroidir les ardeurs. Et puis, il y a un conseiller général qui a émis l'idée que peut-être ça pouvait se faire. Donc on a embrayé derrière. Puis voilà, bon, ça arrive. Alors est-ce que... Je pense que c'est plus les responsables de... Alors je crois que c'est l'INAO, oui. Je ne sais pas si c'est l'INAO ou le CIVC qui a demandé à ce qu'il y ait une extension de l'aire. Enfin, c'est un des deux. Et bon, bah, le wagon, enfin le train repensant une deuxième fois, va pas falloir le louper, hein.
Et qu'est-ce que vous avez eu en tant que, quand vous étiez élu maire, quelles actions, à part le fait de donner une bouteille de vin à
Bah, je suis allé
quelqu'un?
voir tout le monde, enfin tous ceux que je pensais qu'ils
Pardon?
pouvaient. Je suis allé voir toutes les personnes que je pensais pouvoir m'aider. Alors je suis allé voir le président de l'époque du syndicat des vignerons. Alors la réponse que j'ai eue, vous à l'Hainaut-Bois, vous n'avez qu'à faire du cidre. Voilà. Bon, je suis allé voir le député, bon, le conseiller général forcément. Le président de la Chambre d'agriculture, qui lui, c'était Monsieur Fauconnet à l'époque, m'encourageait. Après, je suis allé voir une personne qui menait un peu le même combat, ça doit être Monsieur Moutard, je crois. Qui comprenait, bah parce qu'il menait la même bataille, mais bon, c'est tout, ça s'est arrêté là. Et bon, j'ai toujours pensé que notre député, paix à son âme, hein, mais qui nous a rendu service par ailleurs, mais peut-être qu'il protégeait un petit peu son secteur d'Haricey, là-bas, je sais pas. Enfin.
Et ces questions-là étaient débattues au conseil municipal?
Oui, on avait pris une délibération. Enfin, j'ai pris des contacts avant de qu'on prenne la délibération.
Avant que vous soyez maire?
Ah bah aussi, oui, avant, oui, puisque c'est en tant que jeune agriculteur alors que je suis allé. Mais après, bon, c'est sûr que la démarche était plus officielle là, du fait que j'étais maire, quoi. Là, c'était plus en mon nom personnel, c'était le nom de la commune. Mais je pense que je suis allé voir des gens avant qu'on prenne la délibération. J'allais les voir en tant que maire, mais avant qu'on prenne la délibération. Et Après, on a pris cette délibération qu'on a envoyée à l'INAO, et puis je ne sais plus où. Bon, c'est resté lettre morte, mais on avait la satisfaction d'avoir fait ce qu'il fallait.
Alors, cette délibération.
Alors, elle reprenait tout l'historique de ce qu'on pouvait connaître sur la vigne à Lenovo pour essayer de prouver qu'il y avait un passé viticole et qu'on sortait un bon produit, quoi.
Alors pourquoi tous les nombreux n'est pas venu avec vous, pancarte à la main?
Oh, disons qu'on n'avait pas, on voyait pas cette lutte entre guillemets sous cet angle-là, quoi. On pensait que, ouais, on était sûrement un peu naïf, quoi. On pensait qu'on allait voir des gens, on allait être compris, hein, tout ça. Mais bon, dans ces dossiers-là, je pense qu'il y a une partie d'intérêt. Tout au moins à l'époque. À l'époque où je l'ai fait, quoi. Puisque je m'étais laissé dire qu'il y a un autre député de l'Aube qui avait réussi à faire avoir l'appellation à une commune. Donc c'est qu'il y avait quand même une possibilité de ce côté-là.
Quelle commune c'était?
Je pense que c'est pas du côté de Gessin par là. Il y a longtemps de ça avec.
Ben ça coïncide avec la période de la flambée des prix de la parcelle, non?
Ah non, 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 sur les Nauxbois.
Les années 60, fin des années 70, 80.
Ah non, non, bah, 70-80, on n'avait pas de. Comment dire, de gens qui proposaient l'achat
Non,
de.
non, mais par ailleurs, sur au niveau de la.
Ah bah j'imagine que dans la commune en question, là, dont je me souviens plus du nom, du jour où l'appellation est venue, ça a dû modifier oui, le prix du foncier, ça, forcément. Puisque tout à l'heure on parlait d'un rapport de 1 à 25, et maintenant on est plus d'un rapport de 1 à je sais pas combien, 60 ou 80. Ouais, bah sur le vignoble, je pense pas avoir beaucoup de choses de plus à vous dire. L'autre jour, je lisais un petit truc là. C'est okay. Fin du 19e, il était proposé aux agriculteurs de Hennebois de faire une pépinière avec des plants américains et de recevoir des cours de greffage. Donc ces gens-là voulaient préparer l'avenir. C'est dommage, quoi, parce que finalement il y a eu un trou là, autour des années, bah, sûrement des années 20 ou 25, quand ils devaient préparer la loi. Là, c'est là qu'il aurait fallu un peu plus d'ambition et d'énergie pour décrocher le gros lot, quoi, si on peut dire.
Mais en tant que maire, en défendant les idées d'un vignoble à Lenovo, est-ce qu'il y avait soit des détracteurs dans la commune ou soit des gens qui se disaient.
Oui, oh, bah, je pense qu'il y a, bon, il y a une partie qui devait y croire, je pense. Oh, puis il y a sûrement des gens qui vont dire, bon, il est bien gentil, mais ça doit être un doux rêveur, ou je sais pas. Enfin. Parce que. Disons, quand on est en dehors de ça, on a l'impression qu'on s'attaque à un colosse, là. Mais si on ne va pas le titiller, si on ne va pas essayer de fissurer un peu les choses, bah, on sera toujours face à un bloc et puis il n'y aura rien de fait, quoi. Alors bon, bah, moi c'était ça, hein, essayer de. Mais bon, ça peut marcher, ça peut marcher. Hein, mais finalement, ça vient quand même alors.
Et on en parle dans les mots boîtes, ça.
Ah oui. Ah oui, non, surtout que des gens sont passés chez tous les propriétaires de parcelles potentiellement classables, quoi. Alors là, maintenant, ça parle, quoi. Mais bon, oui, tout le monde n'a pas le même intérêt. Il y a des gens, bon, qui voient l'argent qu'ils peuvent toucher tout de suite, et puis il y a des gens qui disent, bon, ça peut peut-être préparer un avenir pour nos descendants, quoi. Parce que quand on regarde les communes du vignoble, on sent qu'il y a une certaine, comment dire, une certaine richesse, quoi.
Et donc ça crée un peu des tensions
Oh
entre
non,
vous.
non, 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 quoi. Non, je pense que tout le monde va dans le même sens. Il n'y a pas de. Alors bon, après, il y a peut-être les gens qui n'ont pas de terre, mais ça, c'est. Il y a peut-être pour certains une petite jalousie, mais qu'on retrouve aussi bien vis-à-vis des agriculteurs ou je sais pas quoi. Enfin, vous savez, dans un village, il y a toujours des gens qui jalousent plus ou moins des autres, puis parce que dans un village, on a l'impression qu'on se connaît, quoi. Alors que bien souvent, c'est une impression, c'est tout, quoi.
Parce que vous semblez dire quand même que c'est un peu la loterie.
Ah bah, loterie dans le sens où. Non, je pense pas que c'était une loterie, puisque les Nauxbois a été cité parce que.
Mais pour, par rapport au, à quelle parcelle va.
Ah ben, la personne qui est venue là, c'est quelque chose. Enfin, je pense qu'ils ont bien travaillé leur truc. D'ailleurs, même au niveau déjà approche des gens, où la personne est super douée, ou alors je pense plutôt qu'elle a été bien conseillée, parce que ils savent entrer chez les gens. Amener ça bien, rassurer les gens. Je sais pas, résultat, ils ont réussi à en convaincre pas mal quand même, quoi.
Il ne peut pas savoir quelles vont être les parcelles
Ben,
qu'il
on a l'impression que ces gens-là ont plus d'informations que nous. Ils doivent être dans la confidence qu'on n'a pas, nous. Parce que bon, ils sont venus quand même avec une carte d'état-major, proposer d'acheter des parcelles se situant entre telle et telle courbe de niveau. Ils sont pas venus comme ça, la fleur au fusil. Hein. Ils savaient ce qu'ils allaient nous. Ils savaient ce qu'on avait, déjà, hein, où ça se situait. Alors bon, ces informations-là, je pense qu'ils peuvent les avoir au cadastre. Mais se permettre d'investir les sommes qu'ils investissent, je pense pas que c'était là, c'est dans une loterie. Hein. Là, je pense que ils doivent savoir plus de choses que nous sur l'avancement du dossier. Parce que sur les Nauxbois, je crois que ça représentait, ça devait être 13 hectares, je crois. Ils en ont acheté sur Villery, sur Javernant. Donc ça doit commencer à faire une bonne surface, à un prix se situant entre 170 000 et 200 000 euros. Ça fait déjà un certain capital.
Ça vous fait un peu enragé, ils en sachent plus que vous pouviez en savoir en tant qu'élu.
Ouais, vous savez, l'expérience d'élu, justement, montre que y a des choses qui se font comme ça, que l'information passe, mais pour certaines choses avec certaines précautions, ou je sais pas, alors donc On évite peut-être de dire telle ou telle chose. C'est comme la politique au niveau national, c'est pareil. Hein. Quand je vois des gens qui se disputent pour des raisons politiques ou je ne sais quoi, alors qu'on en sait qu'un tout petit pourcentage. Bon, bah pour des grands dossiers, c'est pareil. Hein, et moi, j'ai vécu, enfin, comme grand dossier, j'ai vécu l'autoroute à Lesnaux-Bois avec le remembrement. Bon, bah, c'est sûr qu'il y a des réunions qui sont faites déjà à un niveau au-dessus de nous. Il y a d'autres réunions qui sont faites en intégrant les élus. Et puis, il y a des réunions qui sont faites aussi pour le public. Bon, et je ne peux pas dire qu'il y a une grande différence entre chaque niveau, mais il y a des petites choses qui peuvent être dites à un niveau et pas à un autre. Par exemple, pour l'autoroute, il s'est fait une association de défense qui voulait annuler le projet autoroutier. Bon, bah, ces gens-là, si ils ont. Ils ont, d'autres informations, ils sauront que c'est même pas la peine de monter une association. On se bat pas contre un Pékin du coin là, qui veut faire un chemin. Hein. C'est l'autoroute, hein, quand même. Donc, je pense que pour toutes les grandes décisions, c'est comme ça. Hein. Il y a une information pour chaque niveau, quoi.
Si vous pouvez juste me rappeler de quand à quand vous avez été maire.
J'étais maire de mars 1983 à mars 2001. Ouais.
Ah, j'ai oublié de vous demander de dire de la nouveau.
De Lesnaux-Bois. Maire de Lesnaux-Bois, oui.
Donc, vous pouvez juste le redire.
Oui, bah donc j'étais maire de la commune de Lesnaux-Bois de mars 83 à mars 2001. Soit 18 ans. Et avant, 6 ans d'adjoint, donc 24 ans consacrés à la commune.
Mais je vous remercie bien.